Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, l'amour rayonnant d'Allah et sa bénédiction soient sur chacun et chacune d'entre vous. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous remercier pour l'engouement incroyable qu'il y a eu autour de la masterclass qui a été lancée il y a à peine 48 heures. Et justement, les places ont déjà été prises d'assaut et les deux dates sont full. Donc je loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et je lui demande sincèrement d'être digne de la confiance que vous me faites. C'est beaucoup d'honneur pour moi, alhamdoulilah. Je vais essayer de profiter au maximum de mon séjour qui se profile, mais honnêtement j'ai très hâte de vous voir en ligne le samedi 25 ou le dimanche 26 selon la date que vous avez choisie. Je suis très enthousiaste à l'idée de passer un moment privilégié pour vous comme pour moi. J'ai hâte de vous partager mes recherches, les connaissances que j'ai réunies et mises en forme pour vous. Et puis j'ai hâte d'entendre vos questions, vos réactions, vos expériences et puis de vous partager la mienne parce que c'est plus facile pour moi dans un cadre restreint comme ça de donner peut-être parfois un peu plus d'informations, d'indications sur ma vie personnelle, sans trop m'étaler non plus. Mais surtout, plus que tout, j'espère que cette masterclass, elle aboutira à une véritable évolution des mentalités, parce qu'à mes yeux, c'est l'une des clés centrales pour sortir de la crise du célibat et du mariage qu'on rencontre en ce moment. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala nous facilite et qu'il éveille nos consciences amines. Par ailleurs, j'ai noté énormément de sujets connexes à aborder et que vous m'avez suggéré au moment justement du lancement de cette masterclass, notamment comment sensibiliser nos parents à un prétendant d'une origine différente, ça c'est quand on est un enfant d'immigré, ou comment faire lorsque nos mahrams ne sont pas sensibilisés ou intéressés par le fait de nous accompagner dans une démarche de muqabala. Donc promis, ces sujets-là, on va essayer au maximum de les aborder durant les masterclass, mais Inch'Allah, ils feront l'objet d'un podcast ou deux podcasts même au pluriel qui seront disponibles sur la chaîne Halal Love, parce que c'est là que tout a commencé, parce que c'est tout à fait normal, où ça me semble important pour moi de continuer de propager l'information au plus grand monde. Être musulman, c'est aussi ça, ne pas garder les bonnes informations pour soi. Une dernière chose, pour celles et ceux qui souhaitaient s'inscrire à la masterclass mais qui n'ont pas pu, j'ai créé une page de liste d'attente. Vous aurez simplement indiqué votre prénom, votre email et votre numéro de téléphone et puis je vous informerai en avant-première, Inch'Allah, des prochaines dates qui seront prévues. Merci encore pour votre soutien, pour votre fidélité et pour vos retours qui m'aident vraiment beaucoup à progresser. Puis Allah subhanahu wa ta'ala m'aide à renouveler mon intention régulièrement et à le servir sincèrement. Sans plus tarder, je laisse place à l'épisode du jour. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc l'amour, il n'est pas impossible, mais c'est l'union qui est rendue difficile. Mais ce qui rend aussi parfois les amours ou l'union difficile, c'est des éléments internes. Et ça, on oublie très souvent de les souligner. C'est quoi les éléments internes? C'est par exemple le... Il faut avoir des critères, mes frères et mes sœurs. Bien sûr, c'est normal, on a des critères. Mais on doit avoir un critère principal, un critère fondamental. Un critère sur lequel on ne peut pas négocier. C'est celui de la foi et de la piété.
Parce que moi, je l'ai vécu avant de me marier. J'ai senti que tous les freins étaient levés. Le seul qui restait, c'était moi. Je l'ai senti, je l'ai vécu.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère.
Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de notre conversation avec Farid Jemiha de l'Institut musulman de Moselle et connaisseur émérite de l'histoire de Rasulallah alayhi salatu wa salam et de ses compagnons. Si la semaine dernière c'est un homme qui était à l'honneur, aujourd'hui, Farid nous partage le récit d'une femme qu'Allah a comblée non pas d'une, mais de deux unions bénies. Umm Salama est une épouse, une femme et une mère exemplaire. Lors de son premier mariage avec son tendre époux, Abu Salama, leur union fusionnelle va connaître une douloureuse séparation au nom de la religion. Après une année à peine supportable, elle bravera une distance à peine croyable grâce au secours d'Allah et finira par rejoindre les siens. Toutefois, notre présence sur terre n'étant pas infinie, Umm Salama a dû accepter de se séparer de son cher et tendre mari, car Allah l'avait rappelé à lui. Et alors qu'elle n'avait plus aucun espoir de connaître à nouveau une union aussi épanouissante, Allah lui réserva comme nouvel époux la prunelle de nos yeux, notre bienheureux et bien-aimé prophète, alayhi salatu wa salam, paix et salut sur lui. À l'issue de ce récit aux enseignements multiples et toujours d'actualité, Farid et moi échangeons avec candeur et profondeur sur la douloureuse crise du célibat qui affecte notre communauté, mais également sur nos expériences personnelles, passées et présentes du célibat, du mariage et de la clémence d'Allah au centre de tout cela. Sans plus tarder, je laisse la parole à mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
Ben écoute, ça va être à mon tour, mais j'ai plein d'étoiles dans les yeux après ton histoire magnifique. Moi, je vais aborder d'une manière un peu plus, un peu différente, mais on va se rejoindre, toi et moi, puisque c'est le but, c'est d'apporter un éclaircissement sur ce sujet, ce qu'on appelle un amour ou des amours impossibles. Moi, je vais parler d'une femme. Toi, tu as parlé d'un homme, donc c'est bien. Moi, je vais parler d'une femme. Et toi, tu es une femme qui a parlé d'un homme. Moi, je suis un homme qui a parlé d'une femme. Voilà.
C'est vrai,
On est
c'est
dans
vrai.
l'équilibre.
Subhanallah, exactement. Parfait.
Déjà.
Alhamdoulilah.
Je vais parler de Salama, radiallahu anha, la mère des croyants. Une femme exceptionnelle. Et c'est une femme qui a vécu deux amours impossibles. Alors, quand on dit amour impossible, je me permets juste de faire un éclaircissement sur cette formulation. On sait tous que l'amour, en fait, c'est un concept. On va tous avoir, si on demande une définition de l'amour, on va tous avoir une définition différente. L'amour, c'est un concept. En vérité, ce n'est pas l'amour qui est impossible. L'amour, il n'est jamais impossible. On peut aimer quoi qu'il arrive. En fait, ce qui est impossible, c'est l'union entre deux êtres qui s'aiment. C'est ça qui peut paraître, je dis bien paraître, on va le voir hein, pourquoi j'utilise ce terme-là, et d'ailleurs à travers ton histoire on l'a compris, hein. Ça peut paraître impossible, mais rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Exactement.
Donc l'amour, il n'est pas impossible, mais c'est l'union qui est rendue difficile, l'union entre deux êtres qui s'aiment qui est rendue difficile. Et cette impossibilité, elle est causée soit par un élément externe, soit par un élément interne. C'est quoi ces éléments-là? Ben, l'élément externe, c'est par exemple la famille. Tu l'as mentionné dans ton histoire. La famille qui se dresse en tant qu'obstacle, empêchant le futur conjoint et la future conjointe de s'unir. Ça peut être l'entourage, ça peut être les amis, ça peut être des connaissances qui, par jalousie, par d'autres motivations, empêchent la réalisation de l'union entre deux êtres. Ça peut être la distance géographique, spatiale, entre autres. Donc, tout ça, ce sont des éléments extérieurs. C'est-à-dire que la personne n'a pas la main mise sur ces éléments-là. Mais ce qui rend aussi parfois les amours ou l'union difficile, c'est des éléments internes. Et ça, on oublie très souvent de les souligner. C'est quoi les éléments internes? Ben, c'est par exemple le manque de confiance en soi. Et tu l'as relevé à travers ton récit, et tu as fait la parallèle avec cette personne à qui tu dédies cette magnifique histoire, et quelle magnifique dédicace, mashallah. Eh bien, il y a cette part de manque de confiance en soi qui est due soit à un physique, soit à un problème peut-être aussi plus profond, intérieur. Ça peut être aussi, et ça je vais le répéter, mais je le tiens à dire mes frères et mes sœurs. Ça, je vais être dur, mais il faut se dire les choses. Il faut qu'on se dise les choses, les frères et les sœurs. Parmi les éléments internes qui rendent l'union difficile entre deux êtres, il y a les trop nombreux critères. Et l'histoire que Madina nous a racontée, justement, elle vient bannir cette façon de voir les choses, c'est-à-dire d'avoir trop de critères. Je veux que mon futur conjoint il soit comme ci, il soit comme ça, il est ceci, il est cela. Je veux que ma future conjointe ait trop de critères. Ça empêche l'union entre deux êtres. Il faut avoir des critères, mes frères et mes sœurs. Bien sûr, c'est normal, on a des critères. Mais on doit avoir un critère principal, un critère fondamental, un critère sur lequel on ne peut pas négocier. C'est celui de la foi et de la piété, et c'est ce qui a été relevé encore une fois dans le récit que nous a raconté Madina. Donc voilà les deux éléments qui rendent l'union ou les amours impossibles, c'est des éléments externes et des éléments internes. Eh bien, à travers l'histoire de Salama, radhiyallahu anha, on va voir qu'elle a connu deux unions difficiles. La première union, vous allez voir, elle a été rendue difficile à cause d'éléments externes. Et sa deuxième union, elle va être rendue difficile à cause d'éléments internes. Donc on va voir tout ça, Inch'Allah, à travers son histoire. Alors d'abord, je me permets juste de faire une petite présentation, même si on n'a pas besoin de la présenter. Qui est Umm Salama? Umm Salama, elle est de la tribu de Quraysh, la tribu la plus noble en Arabie. À l'intérieur de la tribu de Quraysh, vous avez des clans. Vous avez le clan des Bani Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez le clan des Bani Tayyim, le clan de Abu Bakr. Vous avez le clan des Bani Adi, le clan de Umar ibn al-Khattab, etc. Il y a au moins une centaine de clans qui composent la tribu de Quraysh. Elle, Umm Salama, elle fait partie du clan des Bani Makhzoum. C'est quoi ce clan? C'est qui ce clan? C'est le clan de Abu Jahl. Et en fait, c'est le clan le plus hostile à l'islam. C'est le clan le plus hostile au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien même il est hostile, il fera sortir des rangs de ce clan des personnages qui vont marquer l'histoire à tout jamais, tels que Umm Salama. Alors, on va voir, on va parler de son époux, Abu Salama. Et peut-être pour ceux qui connaissent un peu le célèbre Khalid ibn Walid, celui qui était surnommé Saifullah, le sabre d'Allah. Et il
L'épée.
appartient à, voilà, l'épée d'Allah. Il appartient à ce clan-là, le clan des Bani Makhzoum. Donc ça, c'est important déjà d'avoir à connaissance de cela pour la suite de l'histoire. Concernant Umm Salama, certains historiens disent qu'elle est la fille de Atiqa bint Abdel-Muttalib, ce qui voudrait dire qu'elle est en fait la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça voudrait dire que sa mère est la sœur du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son mari, Abu Salama, lui par contre c'est sûr, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salama, il est le fils de Bayda bint Abdel Muttalib. C'est-à-dire que la sœur de Abu Salama, la mère pardon de Abu Salama, c'est la sœur du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Salama, ils ont le même âge et ils ont été allaités ensemble. C'est-à-dire ce sont des frères de lait, ils sont très très proches. Eh bien, Umm Salama, son premier mari, c'est Abu Salama. On verra plus tard qu'elle va épouser le prophète, elle va devenir une mère des croyantes. Mais avant ça, elle a une vie. Eh oui, on peut très bien avoir connu une union avant d'en connaître une autre. On peut très bien avoir connu une première union avec son histoire et avoir une deuxième histoire. Pareil, deux histoires remplies d'amour, c'est pas impossible, c'est ce qu'on va voir. Donc, Umm Salama avec son mari Abu Salama, ils vont faire les deux hégires. Ils vont faire l'hégire en Abyssinie, en Éthiopie. Puis finalement, ils vont revenir à la Mecque pensant que la Mecque était devenue musulmane. C'était l'information qui avait circulé. Fausse information. Dès qu'ils arrivent à la Mecque, ils retrouvent toujours leur propre clan le plus hostile à l'islam en train de faire du mal aux prophètes, mais aux musulmans. Pour ce qui est de sa personnalité, Umm Salama, elle était considérée comme l'une des femmes. Pareil, je vais essayer d'utiliser des termes très sages et très. Très pédagogue, comme tu l'as fait, Madina, mashallah, j'ai bien aimé. Elle était d'un physique gracieux. Voilà, je vais m'exprimer comme ça. Elle était d'un physique très gracieux. Elle fait partie des trois femmes considérées comme ayant le physique le plus gracieux parmi les épouses du prophète. On dit qu'il y avait Safiya, il y avait Salama et Zainab bint Jahsh. D'ailleurs, très souvent, dans des récits, Aïcha radhiallahu anha, quand elle mentionne sa jalousie, elle n'a pas de pudeur à mentionner sa jalousie, Aïcha radhiallahu anha, elle assume, j'aime beaucoup. Et très souvent, elle mentionne ces noms-là, Safiya, Salama et Zainab bint Jahsh. Donc, elle était belle, elle était sage, très sage. Je vais y revenir plus tard. Elle va d'ailleurs apporter une solution à un problème que le prophète a rencontré par sa sagesse. Et bien sûr, elle était pieuse. Elle était très pieuse au point que parfois, Jibril alayhi salam, quand il venait sous l'apparence humaine, prenait l'apparence du compagnon d'Ihya al-Kalbi, il venait chez elle. On a beaucoup de hadiths qui relatent cela. Donc, comme j'ai dit, elle fut d'abord mariée au compagnon Abu Salama, mais Abu Salama, il va décéder. Il va mourir martyr. Et par la suite, donc, on verra qu'elle va épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les mérites qu'elle a, c'est que beaucoup de versets furent révélés par sa cause. Et elle meurt en l'an 21 de l'Hégire. Voilà pour ce qui est de sa biographie de manière vraiment succincte. On va passer à la première union difficile. C'est une union dans laquelle elle va connaître la séparation de son mari et de son fils à cause d'éléments externes. L'élément externe, les éléments externes qui empêchent l'union ou qui divisent les unions, c'est du poison, mes frères et mes sœurs. Wallahi, c'est du poison. Eh bien, elle, Umm Salama, elle va goûter à ce poison contre son gré. Alors, Oum Salama, il faut savoir que avec son mari Abou Salama, et moi je me permets de le dire, c'est mon avis en tout cas, d'après mes recherches biographiques. Et tu le sais, Madina, s'il y a bien une chose que j'aime, c'est de présenter les biographies, de faire les recherches biographiques. Eh bien, vraiment, je peux le dire, hein, d'après toutes mes recherches et d'après tout ce que j'ai lu, d'après tout ce que je présente, en dehors du prophète, sans même parce qu'il est au-dessus, je n'ai jamais vu, parmi les compagnons, un couple aussi fusionnel que celui d'Abou Salama et Oum Salama. Vraiment, j'ai jamais vu un couple aussi fusionnel, c'est incroyable. Ils
Et
faisaient
pourtant,
tout
Dieu sait que tu as
ensemble.
fait des recherches, hein.
Et
Tu
j'ai
vois,
fait des
si tu es capable de
recherches.
dire, voilà, subhanallah, c'est
Non,
encore plus impressionnant venant de toi, mashallah.
ils étaient inséparables. Ils faisaient tout ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils ont tout affronté ensemble, c'est incroyable. Eh bien, comme je l'ai dit, Oum Salama et Abou Salama, ils appartiennent au clan des Bani Makhzoum, le clan le plus hostile à l'islam. Et donc, ils ont subi les persécutions de leur clan, qui n'acceptaient pas qu'ils étaient musulmans. Ils ont subi des persécutions, ils ont subi des humiliations. Finalement, ils vont décider d'émigrer pour échapper à tout cela. Lorsque le prophète a donné l'ordre d'émigrer à Médine, les compagnons ont commencé à émigrer, eh bien, Abou Salama et son épouse décident d'émigrer. Au moment de partir, Abou Salama avec son épouse, ils prennent la route, le clan des Bani Makhzoum les rattrape. Abou Salama, il arrive à se sauver avec son fils. Et eux, ils attrapent Oum Salama et la font prisonnière à la Mecque. Donc Abou Salama retourne, pardon, Abou Salama va à Médine, il rejoint le prophète Sassem avec son fils, mais Oum Salama, elle reste à Médine seule.
À la Mecque.
À la Mecque, pardon, elle reste à la Mecque seule. Merci, Médine. Elle reste à la Mecque seule. Son clan la retient prisonnière et elle, on dit, d'après les historiens, qu'elle est restée environ un an séparée de son mari et de son fils. Alors que je vous ai dit, ils étaient vraiment. Il y avait c'était un amour fusionnel. C'était un foyer où l'amour fusionnel était sans doute l'un des plus grands à la Mecque, peut-être même dans toute l'Arabie. Alors imaginez-vous l'état de Oum Salama, comment elle est. On dit que pendant un an, elle a pleuré jour et nuit. C'est ce qui est dit. À tel point qu'il y a même un non-musulman, un ennemi de l'islam, il en a eu marre. Il a dit, j'en peux plus de l'entendre. Et même lui, avec son cœur dur comme de la pierre, il a fini par se fendre. Et il a dit, laissez-la. Et c'est lui qui allait plaider au sein du clan des Bani Marsoum. Et les autres, ils ont dit, nous aussi, on en a marre, on n'en peut plus. Tous les jours, elle pleure. Allez, et bien elle veut partir, qu'elle s'en aille. Elle veut partir, qu'elle s'en aille. Donc ils vont finalement la laisser partir. Mais c'est pas une victoire, ça. Pourquoi? Parce que Médine, c'est à plus de 500 km, il faut traverser le désert. C'est une femme seule, elle n'a pas de monture, elle n'a que très peu de provisions. Elle est toute seule, elle ne connaît même pas le désert. Ben finalement, Oum Salama, elle est quand même déterminée. Elle décide de rejoindre son mari et son fils, combien même elle est seule. Imaginez-vous. Donc c'est vraiment, elle représente pour moi la patience et la détermination pour retrouver son amour, pour couper court à cette difficulté externe qui est venue s'opposer entre lui, entre elle et son amour. Donc vraiment, cette patience et cette détermination, elle est à relever. Elle va traverser le désert, malgré les dangers, malgré les difficultés. Et imaginez-vous de faire le voyage seul pour une femme à cette époque-là. Tous les dangers se présentent à elle. Mais alhamdoulillah, Allah Azzawajal, il est bon avec ses serviteurs qui font preuve de piété, avec ses serviteurs qui s'habillent de la plus belle des parures, qui est la piété et notamment la patience, qui est son joyau, eh bien, il va lui envoyer de l'aide. Il va envoyer un homme qui s'appelle Othman. Othman ibn Talha. Afwan, il s'appelle Othman ibn Mahzoum. Alors c'est un mouchrik, c'est un associateur, il n'est pas musulman. Mais quand il va trouver Oum Salama sur sa route dans le désert, toute seule, elle va lui raconter son histoire. Et il va dire, c'est pas possible, je ne peux pas laisser une femme de ma tribu, Quraysh, être à la merci de n'importe qui dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les 500 km avec elle. Il va lui laisser sa monture et lui, il va marcher à côté d'elle. Quand il s'arrête pour faire des pauses, il se met toujours à l'écart, mais il la surveille pour voir s'il n'y a rien qui lui arrive. Tout ce qu'il avait comme provision et à boire, il va lui donner. Et dès qu'il arrive à Quba, dans les faubourgs de Médine, il va lui dire, va, rejoins ton mari et ton fils. Plus tard, il va embrasser l'islam. Quand il embrassera l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sera redevable de ce qu'il a fait pour Salama. Et Salama, elle a dit, le meilleur homme sur terre que j'ai connu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui a fait preuve de plus d'attention et de noblesse à mon égard, c'est Othman, et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Vous imaginez? Eh bien, en tout cas, grâce à cette aide-là, qui est en fait une aide apportée par Allah subhanahu wa ta'ala, Salama, elle arrivera à Médine saine et sauve, et elle va retrouver son mari et son fils. Ils vont vivre ensemble, et elle aura d'ailleurs, à la suite, deux autres enfants de son mari, donc elle aura en tout trois enfants. Donc ici, cette première histoire, Madina, t'as compris, c'était un amour qui paraissait impossible. Mais finalement, il a été rendu possible, comme j'utilise tes mots. Mais il a été rendu possible. Pourquoi? Par la patience et la détermination qui ont pour source la foi, la piété. La deuxième union difficile qu'elle va connaître, c'est l'union avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça paraît incroyable de dire ça. Comment ça? Une union difficile avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Parce que Salama, elle va connaître l'épreuve du veuvage. Son mari, Abu Salama, meurt martyr. Elle se retrouve seule. Et je vous ai dit, l'amour qu'ils avaient les deux, à ma connaissance, j'ai pas connu parmi les compagnons un amour aussi grand qu'ils avaient. Imaginez-vous dans quel état elle est, Salama. Elle est complètement dépitée. Pour elle, c'est fini, il n'y a plus d'amour, ça n'existe plus sur Terre. C'était Abu Salama, il n'y a personne d'autre. Donc pour elle, tout s'arrête là et elle est prête à vivre sa vie de veuve et à attendre la mort qui se présente à elle. Donc elle a perdu espoir de se remarier. Et là, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Ceux qui veulent se marier pour la première fois, comme ceux qui souhaitent se remarier. Ça parle à tout le monde. Eh bien, écoutez ça. Salama, elle s'est dit, après la mort de son mari, Abu Salama, comment pourrais-je trouver quelqu'un qui puisse me convenir autant que Abu Salama? C'est elle qui s'exprimait ainsi. Elle disait, c'est impossible. Et pourtant, Abu Bakr va venir la voir. Il va la demander en mariage. Elle va refuser. Pardon, hein, mais c'est comme si elle va lui dire, même toi, t'es pas à la hauteur de ce que Abu Salama, il était pour moi. Elle va refuser. Omar va venir tenter sa chance. Abu Bakr, il n'a pas réussi. Allez, moi, je vais venir. Il a tenté sa chance. Il a proposé à Salama le mariage. Elle a refusé. Elle a refusé parce que Abu Salama, il avait vraiment auprès d'elle un statut particulier. Il était au-dessus de tous. Et après avoir refusé les demandes en mariage d'Abu Bakr et Omar, elle va finalement accepter la demande du meilleur des hommes de l'univers. Mais, comme je l'ai dit, il va y avoir une difficulté. C'est qu'elle ne va pas accepter tout de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir la demander en mariage. Donc, quand Abu Bakr et Omar l'ont demandé et qu'elle a refusé, regardez la noblesse de caractère du prophète, c'est maintenant qu'il vient. Il ne vient pas interférer entre non, laissez, c'est moi, je vais la demander. Non, allez-y, vous voulez la demander, demandez-la. Une fois qu'ils ont essuyé le refus, le prophète lui-même va tenter sa chance. Il va proposer le mariage à Salama. Elle va hésiter. Elle ne sait pas. Alors là, ce n'est pas question que il n'est pas à la hauteur d'Abu Salama. Bien sûr que non, au contraire. Mais elle va avoir cette parole qui est rapportée. Elle va lui dire, j'ai trois choses, ya Rasoul, messager d'Allah. J'ai trois choses qui peut-être ne vont pas te convenir. Et là, en fait, c'est une difficulté interne. Elle a un manque de confiance en elle. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle lui dit, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur pour toi. Le prophète lui dit pourquoi. Elle lui dit, premièrement, j'ai trois enfants qu'il faut prendre en charge. Deuxièmement, je suis une femme d'un certain âge. Bon, elle avait la trentaine et quelques, mais à l'époque, quand vous dites ça, voilà. Il se mariait très très jeune, il se mariait à 14-15 ans. Donc quand vous arrivez à 35-36 ans, pour eux, c'était déjà un âge très avancé.
Bien sûr,
Et
c'est comme si on avait 50-60 aujourd'hui, voire plus que 60 que 50 d'ailleurs.
voilà, c'est ça. Et dernièrement, elle dit, et dernière chose, c'est que je suis une femme très jalouse. Et je sais que tu as plusieurs épouses. Donc là, elle a relevé, vous voyez, des difficultés internes qui proviennent d'elle. Première difficulté liée à sa situation financière. Deuxième difficulté liée à sa situation, comment on pourrait dire, quand elle a dit à sa situation, à son état civil. Voilà, on va dire comme ça, son état civil. Elle est âgée dans l'âge et puis elle est veuve. Et troisièmement, elle parle d'un autre problème. Cette fois-ci, c'est un problème de son être, de son ego à l'intérieur d'elle, et elle a l'humilité de le reconnaître. Donc tout ça fait obstacle à son union avec le prophète sans. Mais le prophète, il va aussi nous enseigner quelque chose de l'autre côté. Mes frères et mes sœurs, quand vous voulez quelqu'un, quand vous voulez quelque chose, il faut être déterminé. Il ne faut pas baisser les bras et dire, ah ben tu veux pas, c'est pas grave, tant pis, je vais aller chercher ailleurs. Non! Et le prophète, il lui montre, je te veux toi. Et il va lui dire, pour ce qui est de tes enfants, c'est moi qui les prends en charge. Pour ce qui est de ton âge, avancé, je suis dans le même cas que toi, et même plus. Je suis encore plus âgé que toi. Et pour ce qui est de ta jalousie, je vais implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'éradique de ton cœur. Après avoir entendu ces paroles, Umm Salama, elle va être rassurée. Et elle va accepter la demande en mariage du prophète, et elle va devenir donc la mère des croyants. Elle va devenir une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ses côtés, elle va accomplir de nombreuses choses pour l'islam. Comme je l'ai dit, de nombreux versets du Coran ont été révélés pour elle, par rapport à elle, pardon. Et surtout, elle a joué un grand rôle lors du pacte d'Al-Hudaybiyah. Un pacte très difficile dans lequel les musulmans se sentaient lésés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un ordre à ses compagnons après la signature de ce pacte. Et ils ont refusé de lui obéir. C'était la première fois en presque 20 ans de mission que les compagnons refusent de lui obéir. Le prophète, triste comme jamais il l'a été, parce qu'il n'a jamais connu cette situation, c'est un être humain, il a des sentiments, il est triste, et il a ce réflexe humain de chercher de l'aide autour de lui et du réconfort. Il va dans la tente où trouve son épouse, Umm Salama, et elle le voit. Et là, on voit l'union que devrait être entre un homme et une femme qui vraiment s'aiment. Il se respecte. Elle fait attention à son état. Elle le voit triste. Elle lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle cherche à savoir. Elle veut prendre soin de lui. Et lui se confie auprès d'elle. Voilà, il lui explique ce qui s'est passé. Et là, elle va le conseiller. Tu parlais tout à l'heure de la concertation, etc. Ils vont se concerter. Et elle va le conseiller. Elle va lui dire, tu sais, si tu vas au milieu de tes compagnons et tu pratiques toi-même l'ordre que tu leur as donné, ils vont alors s'exécuter. Et le prophète, il a trouvé que c'était une excellente idée. Par cette sagesse, par ce bon conseil, elle a résolu le problème que le prophète avait rencontré. Il va faire ce que lui a conseillé Umm Salama et le problème sera réglé. Et là, c'est magnifique parce que au-delà de l'aspect que ça a apporté sur la mission du prophète, il y a aussi ce rappel de ce que doit être au sein du couple. Les dialogues, les discussions qui sont basées aussi sur de l'entraide. On doit l'un et l'autre s'épauler et s'entraider dans les moments difficiles et s'enquérir de l'état intérieur de l'un et de l'autre et trouver auprès de l'autre, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, hein, itaskunu ilayha, rechercher de la paix et de la sérénité dans notre conjoint. Donc, à travers l'union du prophète, sur ça, vous avez compris, c'était une union difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments internes à Umm Salama qui faisaient obstacle. Mais en conclusion, je reprends la conclusion de Madina, si la conclusion vient d'elle, rien n'est impossible, mais plutôt difficile. Les choses sont difficiles, mais elles ne sont jamais impossibles parce qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Donc, à retenir, mes frères et mes sœurs, Umm Salama, elle nous apprend à travers ses expériences douloureuses que rien n'est impossible lorsqu'on a la foi en Allah et que l'on met. Et là, je vais revenir sur ce qu'a dit Madina, et c'est l'élément central. Donc, quand on a la foi, on a Allah dans notre vie et qu'on met la religion au cœur de notre existence. On met la religion au cœur de notre existence, on va mettre la religion au cœur du choix de notre futur conjoint, Inch'Allah.
Barakallahoufik Farid pour cette merveilleuse histoire qui nous a, enfin, moi, en tout cas qui m'a emportée franchement. Et je me suis dit c'est fou parce que on n'arrive pas à réaliser à quel point finalement les histoires de nos prédécesseurs, pardon, qu'Allah vraiment soit satisfait d'eux, nous apportent Moi, tu vois, dans l'histoire d'Oum Salama, j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, mais il y a tellement de sœurs aujourd'hui qui sont divorcées, avec des enfants, et les considérations qu'elle a eues, je vais jamais pouvoir me remarier. Non, mais tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Et ça, on l'a entendu, je peux dire, 100 fois, en fait. Énormément de fois, en tout cas, de la part de sœurs qui veulent bien faire, mais qui ont peur, qui ont la crainte. Et j'ai vraiment aimé le fait que tu expliques que, en fait, parfois, nous sommes nos propres barrières, en fait. C'est-à-dire que parfois, la barrière entre nous et le mariage, c'est nous. C'est-à-dire qu'on se remet au milieu
C'est ça.
de notre lit, mais vraiment, en fait, parce que on a, ben, encore parfois, on a peur du regard des autres, etc. Et on s'inflige des décisions qui, derrière, ont des conséquences dramatiques. Parce que on peut se dire, quand on a 25 ans, non, mais c'est pas grave, je dis non, mais après, peut-être que je viendrai. Allahu a'lam. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et même quand bien même, en fait, on s'est marié à 30 ans ou à 35 ans, ben peut-être qu'on pourra quand même avoir dans sa tête un regret de se dire, il y a quand j'avais 25 ans, il y a un frère qui est venu me voir, il y a une sœur qui est venue me voir, et je n'étais pas prêt pour cette personne. Je me suis mise au travers de cette relation. Et tu as raison, Farid, en fait, rien ne peut empêcher finalement l'amour. Le sentiment, il est là, en fait. Mais effectivement, ce qui est rendu impossible, c'est l'union. Et encore une fois, ben, parfois, c'est nous-mêmes qui nous interdisons nos propres unions, et c'est bien dommage.
Effectivement, très souvent, le problème vient de nous. Parfois, il vient de l'extérieur, effectivement, on n'a pas la main
Absolument.
mise dessus, mais on peut quand même, comme l'histoire que tu as racontée, Julaïbib, comme l'histoire de Oum Salama avec son clan, avec la persévérance, avec l'espoir. Julaïbib, c'était plus de l'espoir. Tu l'as relevé par cette réponse qu'il a donnée au prophète, hein, c'est un peu timide. Très belle, je trouve. Moi, je m'imagine la scène. Hein. Il doit baisser la tête, un peu tout rouge. Oui, je veux. Hein. Et ben, il a de l'espoir. Et Oum Salama, elle, c'était la persévérance. Ça, ce sont deux éléments qui permettent de briser les obstacles qui proviennent de l'extérieur. Par contre, pour ce qui est des barrières internes, ça nécessite un travail sur soi. Et bien sûr, on l'a compris à travers le biais du prophète, si la personne en face aussi, elle est prête à nous accompagner. Concernant certaines difficultés qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes.
Absolument, c'est vrai, et tu as raison de le repréciser, c'est que ça aussi c'était beau dans l'histoire d'Oum Salama, pardon, sa deuxième union avec Rasoul Salem, le fait qu'elle ait eu en face d'elle un homme, et quel homme, mais un homme qui la rassure et qui lui dit, non mais moi je peux t'accompagner en fait dans les questions que tu te poses, et elles sont légitimes. Et ça aussi j'ai aimé en fait, le fait que, en fait, on a le droit d'avoir des velléités. On a le droit de se poser des questions, on a le droit de pas être sûr. Par contre, il faut être capable de se poser les questions de d'où ça vient mes craintes. Pourquoi j'ai ces craintes-là? Pourquoi je ne veux pas? Et ça, c'est vraiment notre responsabilité, c'est important. Mais effectivement, là où je te rejoins, mon cher Farid, et c'est souvent là qu'on sait que c'est la personne qu'un partenaire il a prévu pour nous, c'est que cette personne, elle va être capable de nous accompagner dans nos difficultés, de nous dire, bon, bah là, tu vois, tu penses ça, peut-être que tu devrais réfléchir à ça, ou peut-être qu'on peut s'accompagner là-dessus. Et c'est ça qui va faire que dans nos esprits à nous, on va dire, mais en fait, pourquoi je me mets des freins, en fait? Et là, honnêtement, parce que moi, je l'ai vécu. Avant de me marier, j'ai senti que tous les freins étaient levés, le seul qui restait, c'était moi. Je l'ai senti, je l'ai vécu. Et j'ai vraiment senti bah là, en fait, si tu ne te pousses pas au travers de ton propre chemin, mais tu ne te marieras pas et en plus, tu auras probablement des comptes à rendre. Parce qu'en face, il y a une personne qui est super. Donc, ok, tu te poses des questions, ok. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je voudrais presque conclure, c'est que j'écoutais ça justement dans la formation sur l'amour et le mariage. Je trouve ça très juste. La réalité, c'est que on ne se marie pas parce que on est sûr et certain de son choix. On n'est jamais certain. Et que Allah qui sait vraiment au fond, qui sait si ce mariage va durer ou pas, combien de temps il va durer, etc. Nous, on ne sait pas. En revanche, on doit s'appuyer sur celui qui sait tout. Et c'est en ça que c'est très très important de nourrir sa relation avec Allah avant le mariage. Parce que le jour où on a un prétendant qui arrive, on est capable de se tourner facilement vers ce patron-là en lui disant. Eh bien, toi, tu sais, et moi, je ne sais pas. Ça, c'est la salat. Et même au-delà de cette salat, on peut se réveiller pour tahajjoud pendant la nuit. On lui demande, on l'implore de nous montrer. Et vraiment, Allah, il nous montre. C'est difficile. Il y en a qui vont dire, mais comment tu sais, c'est quoi les signes, etc. C'est subtil. Allah, il est latif, il est subtil. Donc, à nous aussi d'essayer de voir en fait les signes qui sont subtils et de vraiment d'être honnête avec soi-même. Moi, je pense que quand on est vraiment honnête avec soi-même, on sait très bien si c'est nous qui nous mettons en train de notre chemin ou s'il y a des critères qui sont autres. Honnêtement, ça
Non,
c'est et c'est
mais
en ça aussi, on est d'accord.
alors c'est très bien, Madina, mashallah, très important, c'est que voilà, il faut avoir cette préparation spirituelle avant de se marier. Tu
Absolument.
parles de signes. Mais comment on fait pour reconnaître un signe? Comment on sait qu'Allah il nous envoie un signe? Si déjà nous, on n'a pas la prédisposition à recevoir ce signe, comment on peut avoir la prédisposition à recevoir ce signe? Ben, si on a fait les efforts pour, est-ce qu'on fait nos prières à l'heure? Est-ce qu'on fait des œuvres surrogatoires? Est-ce que, par exemple, tu l'as mentionné, ça c'est l'une des meilleures formes d'adoration qui permet de recevoir les signes d'Allah. Est-ce que je me lève dans la nuit pour prier? Ben, celui qui fait ça, dans la journée, il va recevoir les signes d'Allah. Comment? C'est Allah qui choisit comment il t'envoie les signes. Il peut te montrer dans un rêve. Il peut apaiser ton cœur. Il peut envoyer quelqu'un. Toi, tu te poses une question dans ta tête. La personne, elle sort de nulle part. Tu as une discussion, elle te répond à la question que toi, tu te posais
Ouais,
intérieurement dans ta
subhanallah.
tête sans la prononcer, subhanallah. Et
Ah
tu sais que
ouais.
ce n'est pas
Ah
une
oui, vraiment.
coïncidence, ce n'est pas le hasard. Mais si tu n'étais pas prédisposé, la personne t'aurait parlé, t'aurais pas fait attention. Combien de fois par jour des personnes nous parlent et on passe à côté des signes qu'Allah nous envoie parce qu'on n'est pas dans cette prédisposition à cause justement, comme tu l'as dit, de cette préparation normalement qu'on doit avoir avant de vouloir s'engager avec la personne qui va partager le reste de notre vie, inch'Allah.
Mais tout à fait, je rajouterais juste une chose, c'est que parfois moi j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont dit, mais tu sais, moi j'ai rêvé que j'étais sur un cheval blanc avec mon futur mari, puis en fait on s'est jamais marié parce qu'en fait ses parents n'ont pas voulu, ou en fait on a divorcé, etc. Je pense que ce qui est important aussi de repréciser, c'est que ces signes-là, souvent, en tout cas, Allahu a'lam, mais Allah il en envoie plusieurs. Et c'est après à nous de faire un peu l'inventaire. Ne nous arrêtons pas sur un signe, disons, ah, j'ai remarqué quelque chose. Ok, est-ce que c'est mon nafs qui veut ça ou est-ce que c'est Allah qui me l'envoie? Je le note dans un coin de ma tête, voire je le note sur un papier pour certains. Et puis on fait l'inventaire. Mais on reste effectivement à l'affût en se disant, je ne veux pas voir les signes, je veux voir ce qu'Allah il me montre. Je ne veux pas voir les signes pour moi, je veux pas voir ce que moi j'ai envie de voir plutôt, mais je veux voir ce qu'Allah il me montre. Et Inch'Allah, je me plierai à la décision d'Allah, quelle qu'elle soit. C'est très dur, hein, mais. Il faut avoir la conviction qu'Allah, il ne nous a jamais déçus, en fait. Et Allah, il n'a jamais fait des mauvais choix pour nous. Jamais. On a toujours peur de se lancer dans des grandes décisions. C'est normal, parce que c'est l'inconnu, etc. Mais en tout cas, moi, ce qui m'aide dans des cas comme ça, c'est je me dis, mais Zina, Allah, il t'a jamais mis dans un bourbier. Il t'a jamais mis dans une galère, en fait. Donc, si là, il te dit d'aller là, et que toi, tu as un peu peur, ou tu te dis, oh là là, parce que c'est le choix d'une vie, hein, le mariage. Vraiment, on va pas se mentir. Surtout quand on n'a jamais été marié, on a peur. On se dit, mais oh là là, mais comment je vais faire? Mais la réalité, c'est que se dire, Allah, toi, tu sais, moi, je ne sais pas. Si vraiment tu m'as montré, alors j'y vais, et je suis convaincue que ça va bien se passer. Ça va bien se passer comment? On ne sait pas. C'est Allah qui. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Je disais ça à une amie la dernière fois, elle vient de se marier, elle me dit, oh, j'espère que je ne me suis pas trompée. Je lui dis, mais tu t'es mariée en Allah, tu t'es pas trompée. Tu peux pas te mentir, tu peux pas te tromper. Tu as demandé à Allah, tu as vu les signes, tu t'es pas trompée. Quand bien même ça s'arrête, tu ne te seras pas trompée,
Non,
Inch'Allah.
ça veut dire que ça fait partie de notre risque, de notre subsistance. Donc
Absolument.
on peut, moi tu sais bien, je parle de mon cas personnel. Moi j'ai vécu deux mariages. D'accord? J'ai vécu deux mariages. Est-ce que je vais dire, ah ben je me suis trompé? Non, je ne me suis pas trompé, je ne regrette en rien mes deux premiers mariages, mais j'ai appris des choses, j'ai grandi sur plein de plans, de sphères, mais c'est Allah qui a voulu que je passe par ces étapes-là. Et Allah, il a voulu qu'à un moment donné, ça s'arrête et que je passe à autre chose. Mais jamais je me suis dit, mais pardon, hein, je vais utiliser une expression, Allah, il m'a roulé dans la farine. Mais jamais que non, subhanallah, Allah, il est parfait. Donc si Allah il a voulu que je passe par ces étapes-là, c'était pour m'enseigner certaines choses. Et combien même je ne les comprends pas au moment où je te parle, Nadina, peut-être dans 10 ans, je dirais, ah, c'est pour ça qu'Allah il m'a fait passer par ces étapes-là.
Absolument,
Alors, voilà,
absolument.
il y a les signes, être capable de les reconnaître, ça c'est une chose, mais ensuite être capable de les lire. Et ça, des fois, ça peut venir des années plus tard.
Absolument, absolument. Que Allah nous aide à lire les signes, qu'Allah Ta'ala nous aide à recevoir les signes, parce que recevoir les signes d'Allah, c'est la preuve, il me semble, qu'Allah, il nous prend en considération, qu'Allah, il nous aime, il a de l'intérêt pour nous. Et vraiment, qui sommes-nous pour citer l'intérêt d'Allah? Et pourtant, Allah, il a de l'intérêt pour nous, il se soucie de nous, il veut notre guidance, il veut notre bien. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide vraiment à dissocier les signes, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine, que ce soit le mariage, le travail, la vie en général. De toute façon, on est là dans cette dunya pour vivre la vie. Et le mariage, c'est un pan de la vie. Mais la vie, elle est plus grande que ça. C'est important de se le rappeler aussi.
Tout à fait. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, c'est que Allah, en vérité, il est miséricordieux envers l'univers. Et tous les êtres humains, je parle des êtres humains déjà, ils ont tous des signes. Il y a les signes dans l'univers, dans la nature. Il y a les signes dans le Coran. Ayat, on dit, les versets du Coran, c'est des signes. Et après, il y a d'autres signes plus subtils, comme tu l'as dit, qui viennent d'Allah. Et ça, c'est Allah qui va permettre, cas par cas, selon sa connaissance de l'individu, de lui distiller des signes beaucoup plus profonds.
Alhamdoulilah. Merci beaucoup Farid pour cet échange vraiment très riche. Merci de nous avoir partagé ton savoir. Merci de tes encouragements concernant ma première intervention sur ce type de sujet. J'avais
Très belle
effectivement beaucoup
intervention.
d'appréhension,
Vraiment
alhamdoulilah,
très belle,
mais
Madina, mashallah.
alhamdoulilah. Vraiment toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Je le remercie et Dieu sait que je l'ai prié pour faciliter cette intervention. Donc merci à lui. Farid, redis-nous encore une fois où est-ce qu'on peut te joindre pour les personnes qui souhaitent te contacter ou les personnes qui souhaitent intégrer l'Institut musulman de Moselle.
Alors, vous pouvez aller sur votre moteur de recherche, vous tapez Institut musulman de Moselle, vous trouverez l'Institut, vous pourrez voir un peu ce qu'on y fait. On a une page Facebook, Institut musulman de Moselle. J'ai un Instagram, Farid Djebbia. Je donnerai à Madina l'intitulé exact. Tu sais, j'ai fait des chroniques pendant Ramadan. Chaque jour de Ramadan, j'ai pris un verset du Coran et je l'ai développé. Ça dure 20 minutes à chaque fois maximum. Donc, il y a 30 chroniques. Et elles sont disponibles, par contre, seulement sur mon Insta, donc pour ceux qui veulent le rejoindre. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus, Inch'Allah.
Bien. En espérant que bientôt tu nous rejoignes dans la podcastphère, Farid, on l'espère, on te le souhaite, on demande à la
Oui.
Sfatarla que tu nous rejoignes vite, afin que ce
Inch'Allah, mais si je rejoins, ce sera toi ma mentor, alors. Il faudra que je passe
soit.
par toi, Inch'Allah.
Avec grand plaisir, alhamdoulilah. Merci beaucoup, Farid, pour ce moment, et puis vraiment, que la Sfatarla te préserve et prenne soin de toi, Inch'Allah ta'ala.
Merci Madina, merci à toi, merci aux auditeurs. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous bénisse et à très bientôt, Inch'Allah.
Amin, assalamu alaikum wa rahmatullahi
Wa alaikum salam.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé, et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.